si on veut voir Tintoret, il faut vraiment venir à Venise.
Il faut venir à Venise. Oui.
Parce qu'ici, bon, il y a ce grand cycle, donc ça, sa chapelle Sixtine, en quelque sorte. Il y a la Madonna de l'Orte, où il est enterré, où il a aussi tout un ensemble.
Le Palais des Doges aussi.
Le Palais des Doges, où il y a le grand cycle de la très très grande peinture du paradis. Il y a San Giorgio aussi, où il y a à nouveau la manne dans le désert. La Salute, enfin bon, dans toutes les églises de Venise.
Il y a des Tintorets.
C'est aux églises et dans les monuments publics qu'il faut aller pour connaître le Tintoret. Il n'y en a presque aucun où l'on ne trouve d'énormes tableaux de lui. Une Assomption aux Jésuites, un Crucifiement et je ne sais combien d'autres peintures à San Giovanni e Paolo, les Noces de Cana à Santa Maria della Salute, quatre peintures colossales à Santa Maria dell'Orto, les 40 martyrs, la Manne, la Résurrection, la Seine, le Martyr de Saint-Étienne à San Giorgio, 20 tableaux et plafonds, un paradis haut de 23 pieds, long de 77 dans le palais ducal. Enfin, à l'église de Saint-Roch et à la Scuola de Saint-Roch, qui sont comme son musée propre, 40 tableaux, quelques-uns gigantesques, capables de couvrir ensemble deux salons carrés de notre Louvre. Ten, voyage en Italie.
Une vie, une œuvre, Tintoret la foudre, ou la peinture ébranlée. Par Pascal Lismonde. Réalisation, Josette Collin. Aucun peintre vénitien du XVIe siècle n'est aussi viscéralement attaché à sa ville. Mais Tintoret, à Saint-Roch, à la Scuola di San Rocco, c'est sans doute là que ce génie donne toute sa mesure. Lui qui, par son originalité sauvage, par l'énergie de sa volonté, ressemble si fort à Michel-Ange, a trouvé là, semble-t-il, sa chapelle Sixtine. Qu'on en juge plus tôt. Un tableau liminaire vous saisit dès l'entrée dans la grande salle de la confrérie de Saint-Roch. C'est une annonciation. L'archange Gabriel, tel la foudre, traverse le mur d'une modeste maison, le geste véhément, le corps à l'horizontale, il fond littéralement sur une Vierge Marie qui semble reculer d'effroi. Irruption du divin dans la vie ordinaire, fureur d'une invasion céleste. Cette annonciation-là semble rejeter la cohorte confondante de ces vierges suaves qui accueillent sans sourciller cette nouvelle pourtant bouleversante. Mais cet ange-là serait-il déjà l'ange du bizarre, trop tôt convoqué dans l'histoire de la peinture, jetant le trouble dans la sérénissime lagune? Tout bouge, palpite, tournoie, bouillonne dans la peinture du Tintoret. Alors, il dérange, à commencer par ses contemporains. L'Aretin, chantre exclusif du Titien, lui concède une seule de ses lettres pour l'inciter à tempérer la fureur de sa jeunesse. Vasari, arbitre des élégances apolliniennes, lui reproche son extravagance, son étrangeté. Ce génie disproportionné, dionysiaque, séduit beaucoup plus tard. Ten, au XIXe siècle, subjugué par cette fournaise ardente. Tintoret la foudre, murmure Sartre, ébloui. Et la fascination continue. Jérôme d'Astier.
Dans la légende de Saint-Marc, par exemple, le vol du corps de Saint-Marc, je trouve ce tableau complètement extraordinaire. Et pas seulement sur le plan, évidemment, de la perspective, de ce génie, de trouver des angles nouveaux, qui est effectivement une des caractéristiques du Tintoret. C'est sublime, cette façon de mettre en scène la scène, de mettre en scène la légende de Saint-Marc, etc. La crucifixion, la montée au calvaire, bon, tous ces angles extraordinaires. Mais il y a dans ces tableaux aussi, pour moi, une utilisation de la couleur qui est extraordinaire et qui est parfois, qui est lié évidemment à la lumière, au clair-obscur ou à une pénombre lumineuse. C'est même pas tellement les contrastes du clair-obscur. Bon, je suis plus sensible à cette espèce de d'ombre lumineuse qu'il y a dans ces toiles qu'au contraste trop violent entre l'ombre et la lumière et à une utilisation de la couleur qui est parfois presque enfin qui me semble aller presque parfois vers le monochrome ou vers une utilisation comme ça de jaune, de brun, de rouge. Je me souviens par exemple du ciel dans le vol du corps de Saint-Marc, le ciel qui est rouge comme ça, qui est étonnant. C'est parfois, pour, je ne sais pas, pour certains, ça pourrait paraître presque à la limite d'un certain mauvais goût, mais moi je trouve que c'est formidable.
Jacopo naît en 1518. Son père est teinturier. Aussitôt, Venise nous souffle à l'oreille que tout a très mal commencé. Aux environs de 1530, le jeune garçon entre dans l'atelier du Titien en qualité d'apprenti. Mais au bout de quelques jours, l'illustre quinquagénaire lui découvre du génie et le fout à la porte, aussi sec. Cette anecdote renaît sous toutes les plumes avec une insistance qui finit par frapper. Elle ne fait pas honneur au Titien, dira-t-on. En vérité, non. Ou du moins, pas aujourd'hui, pas à nos yeux. Mais quand Vasari la rapporte en 1567, le Titien règne depuis un demi-siècle. Rien n'est plus respectable qu'une longue impunité. Et puis, selon les principes de l'époque, il est maître après Dieu dans son atelier. On ne va pas lui refuser le droit de chasser un employé. Les victimes, au contraire, sont présumées coupables, marquées par le malheur, contagieuses peut-être. Elles ont le mauvais œil. Bref, c'est la première fois qu'une enfance maudite figure dans la légende dorée des peintres italiens. Jean-Paul Sartre, Le séquestré de Venise.
Une enfance maudite, un peintre mal vu, qui dérange. Tintoret aurait-il 3 siècles d'avance sur son temps ? Plongeant d'emblée dans le romantisme. Qu'en pensent les peintres vénitiens d'aujourd'hui? Ludovico De Luigi.
Il est le peintre de la nuit. Il a toujours conçu et peint dans une espèce de caméra optique oscure.
Dans une chambre optique qui serait une chambre obscure, en fait.
C'est une chambre, les volets fermés, vous vous arrangerez dans une chambre, les volets fermés, et vous faites pénétrer un rayon de soleil à travers un trou. Les rayons frappés sur des modèles tout petits qu'il modelait, tant que sculpteur, des cires. Le modèle prenait la lumière, et ils avaient une lumière propre. Comme les astres, les étoiles qui vivent de lumière propre, de eux-mêmes. Et cela, il a traduit avec la métaphore pictoriale dans ses tableaux. Et tu peux la constater surtout dans la Maria Egiziaca, là où il y a...
À la Scuola Grande di San Rocco, ce tableau de Marie l'Égyptienne, oui.
Oui, c'est à l'entrée.
Tout au fond.
Tu la vois. Et où il y a des arbres qui ne sont pas des arbres, parce qu'ils sont des arbres qui sortent du sombre, seulement à travers des petites touches de lumière sur la silhouette des arbres. Mais c'est seulement évocatif que tu vois toute la nature, la rivière, les personnages, et tu ne comprends pas parce que c'est ni jour ni nuit, mais c'est plutôt quelque chose, c'est une espèce de...
clair-obscur.
Plus encore, c'est que Dante avait très bien dit la luce antilucana, antelucem, la lux antelucem.
La lumière avant la lumière.
Ah oui, que c'est une lumière intérieure.
Belle métaphore.
Oui, tu vois. Et ça, c'est le Tintoret.
Tintoret, moi, je dirais aussi que c'est le mouvement, c'est le drame. C'est un peintre, on a toujours l'impression qu'il est au bord de la tragédie, enfin, dans ses représentations. Et en même temps, avec une grande violence, un dynamisme extrême. Enfin, tous les personnages bougent, toutes les scènes bougent.
Dans Tintoret, il y a un grand désir de la vie et justement du mouvement de la vie et de la vitalité, parce que c'est un peintre qui, pour sa malchance, il a peint pendant la peste. Au temps de Tintoret, il n'y avait pas la salute, il n'y avait pas le Rédentore, parce qu'ils sont des temples qui sont venus après, quand la paix était finie. Mais elle était commencée.
Oui, en action de grâce, d'ailleurs.
Au temps de Tintoret, tu vois. Donc, lui, il a vécu intensément, parce qu'à chaque instant, il pouvait aussi mourir de peste. Et c'est pour cela que cet grand amour pour la vie, il a porté à faire ces figures, qui n'étaient pas appréciées à l'époque, parce qu'ils étaient en perspective et déformées. Et les ceux de la commission, pratiquement, ils ne voulaient pas.
Les commanditaires n'en voulaient pas.
Non, il a eu la malchance, aussi la chance, parce que beaucoup de ces commettants, ils étaient morts à cause de peste.
À 30 ans, sûr de ses moyens, il s'affirme, peint, Saint-Marc sauvant l'esclave et s'y met tout entier. Étonné, frappé fort et s'imposer par surprise, c'est assez dans sa manière. Or, il sera pour une fois le premier déconcerté. L'œuvre étourdit ses contemporains, mais les scandalise. 1548, l'année pivot. Avant, les dieux sont pour lui, après, contre. Du coup, Jacopo se change en lui-même. Devient ce hors-la-loi frénétique et traqué, le Tintoret. Avant, nous ne savons rien de lui, sinon qu'il travaillait à tombeau ouvert. Ce n'est pas sans acharnement qu'on se fait un nom à 20 ans. Après, l'acharnement se tourne en rage. Il veut produire, produire sans cesse, vendre, écraser ses rivaux par le nombre et les dimensions de ses toiles. Tintoret la foudre navigue sous pavillon noir. Pour ce pirate véloce, tous les moyens sont bons, avec une préférence marquée pour les coups bas. Jean-Paul Sartre, Le séquestré de Venise.
Gian Domenico Romanelli, nous sommes arrivés donc ici dans cet endroit absolument fabuleux qui est la Scuola Grande di San Rocco à Venise et qui est presque entièrement peinte par Tintoret. C'est là qu'on trouve rassemblée la plupart de ses œuvres puisqu'il y a travaillé une vingtaine d'années. Et ici, nous sommes juste en dessous du tout premier tableau qu'il a peint pour la Scuola Grande.
Oui. C'est la gloire de San Rocco. C'est le tableau qui avait donné un grand brouillard à Venise. Il y avait le problème d'un concours que les confrères avaient posé pour choisir le peintre. Et tous les peintres qu'on avait appelés étaient en train encore de travailler sur les dessins, sur les croquis, etc.
Les esquisses,
oui. Et Tintoret est arrivé ici, il a monté sur le plafond son tableau déjà fini.
Oui, c'est ça, il l'a monté directement, comme ça.
Oui,
vous ne pouvez pas faire autrement
que
de...
C'est une légende, mais c'est une légende qui a aussi un fond de vérité.
Ça a dû faire scandale à l'époque.
Oui, c'est un grand scandale, et les confrères ne voulaient pas laisser là les tableaux. Il faut dire aussi que c'est là, je vous le répète, c'est une légende. Il existait déjà les plafonds avec la décoration, etc. Tintoret avait des accords avec quelqu'un de confrères ou une partie de confrères qui pensait que Tintoret, après la décoration de l'école, notre école à Venise, l'école de Saint-Marc, c'était le peintre qui avait plus de vigueur, aussi d'intériorité dans cet âne à Venise.
Comment avait-il réussi à s'introduire dans ce milieu des confréries?
Ah, c'est très difficile à déchiffrer la chose.
Aussi.
Oui, il y avait ces confréries qui étaient gouvernées seulement des citoyens, c'est-à-dire pas les patriciens surtout, qui étaient seulement des confrères formels. Mais là, le gouvernement de l'école s'était complètement confié aux non-patriciens.
C'était des artisans, non? C'était pas...
Des artisans, aussi des professionnels, avocats, etc., des médecins, etc. Tintoret connaissait très bien ce milieu parce qu'il avait travaillé à San Marco, à la scuola di San Marco. Et il y avait une partie des Tintorettiens qui a gagné sur les partis qui s'opposaient à Tintoret.
Qui était le parti des Titiens, des partisans du Titien?
Oui, c'est très difficile à le dire, mais je pense qu'il préférait des autres artistes, un autre artiste ou des autres artistes. Mais il a gagné avec ses extraordinaires Trombe-l'œil.
Oui, parce que Saint-Roch a l'air debout alors qu'il est il est au plafond.
Oui, c'est la gloire de Saint-Roch.
Quand on ne veut pas de ces toiles, Tintoret les donne. Le 31 mai 1564, à la Scuola San Rocco, la présidence de la confrérie décide d'embellir le lieu de ses réunions. On ornera d'une toile peinte l'ovale central du plafond. Paolo Cagliari, Tintoretto, Schiavone, Salviatier Zuccaro sont invités à présenter des esquisses. Le Tintoret, corrompt des serviteurs, obtient les mesures exactes. Aujourd'hui, chacun montre son dessin. Quand vient le tour de Tintoretto, c'est la foudre et le tonnerre. Il grimpe à une échelle, ôte un carton, démasque au-dessus des têtes un tableau aveuglant, déjà placé, déjà fini. Rumeur, il s'explique. Une esquisse prête à malentendu. Pendant que j'y étais, j'ai préféré aller jusqu'au bout. Mais si mon œuvre ne vous plaît pas, messieurs, je la donne. Pas à vous, à Saint-Roch, votre patron, qui m'a témoigné tant de bonté. C'était la carte forcée. Il le savait, le traître. Les statuts de la confrérie interdisaient de refuser les donations pieuses. Il ne restait plus qu'à consigner l'événement dans les registres de la scuola. Cette offrande jette la panique parmi ses concurrents. Elle lui ouvre toutes les portes de la scuola, livre des murs immenses et désertiques aux furies de son pinceau et finit par lui rapporter une pension annuelle de 100 ducats. Jean-Paul Sartre, le séquestré de Venise.
Certes, l'affaire est irrésistible, et à elle seule résume tous les autres tours de Tintoret le Roué. On se retient d'applaudir. Comment faire autrement, pourtant, dans un XVIe siècle vénitien qu'on continue d'appeler, aujourd'hui encore, siècle du Titien? Car la grande question est toujours de savoir comment Tintoret réussit à se faire une place. Lionello Puppi.
Peut-être Titien avait perdu son intérêt pour Venise. Et lorsqu'il était jeune, il avait pensé d'être le peintre de Venise, le peintre officiel de Venise. Et après, son histoire est allée dehors, n'est-ce pas? Et Titien est devenu, et il voulait être ça, un peintre international. À ces conditions-là, peut-être il n'y avait pas une rivalité. Et il s'ignorait, d'une certaine façon, réciproquement. Véronèse, peut-être. Véronèse dans le palais des Doges. Et ça, c'était une rivalité. Mais Tintoret, il avait un métier formidable. Il pouvait faire un tableau énorme dans une journée. Et il a joué toujours cette carte, évidemment.
De la rapidité.
De la rapidité. Je suis là. Je peux vous faire ça dans une semaine. Tintoret fa presto, non? Et on peut comprendre, on peut voir la façon si rapide de travailler dans la qualité qui n'est
jamais compact. Il y a dans la peinture de Tintoret toujours des moments faibles.
C'est-à-dire un peu non achevé.
Oui, il avait sûrement un atelier, on pourrait dire, industriel. Il avait des garçons, et chaque garçon devait faire ça dans un tableau. Cette partie, ces détails, etc. Et lui, le maître, le maestro, arrivait à conclure. Mais il y a toujours des moments, enfin, dans ses œuvres, faibles.
À mon sens, aucune peinture ne surpasse et peut-être n'égale son Saint-Marc de l'Académie, du moins aucune peinture n'a produit en moi une impression égale. C'est un vaste tableau, long et large de 20 pieds, avec 50 personnages de grandeur naturelle, Saint-Marc sombre dans le clair et un esclave éclairé parmi des personnages sombres. Le saint arrive du haut du ciel, la tête la première, précipité, suspendu en l'air, pour sauver l'esclave du supplice. Sa tête est dans l'ombre, ses pieds dans la lumière, son corps, ramassé par un raccourci extraordinaire, plonge d'un élan avec l'impétuosité d'un aigle. Personne, sauf Rubens, n'a saisi à ce point l'instantané du mouvement, la fureur du vol. On est emporté, on le suit jusqu'à la terre, où il n'est pas encore. Là, l'esclave nu, renversé sur le dos, en face du spectateur, par un raccourci aussi miraculeux que l'autre, lui, lumineux comme un corrège. Son superbe corps, viril et musclé et palpitant, ses joues roses à côté de sa barbe noire frisée, s'empourprent du plus beau coloris de la vie. Les haches se sont brisées en morceaux, fer et bois, sans pouvoir toucher sa chair, et tous regardent. Le bourreau, en turban, les mains levées, montre au juge sa cognée rompue avec un geste d'étonnement qui le soulève tout entier. Le juge, en pourpoint rouge vénitien, s'élance à demi de son siège et de son escalier de marbre. Tout alentour, les assistants se penchent et se pressent, avec une variété, un éclat, une séduction inexprimable de la lumière, reflétée par la noirceur polie des armures, étalé sur les ramages lustrés des soies, emprisonné dans l'ombre chaude des chairs, avivé par l'incarnat, le vert, le jaune rayé des étoffes opulentes. Il n'y en a pas un qui n'agisse, et n'agisse tout entier. Il n'y a pas un pli de leur draperie, un ton de leur corps, qui n'ajoute à l'élan et à l'éblouissement universel. Ten, voyage en Italie.
Saint Marc, le grand référent. À ce héros, saint, fondateur du mythe vénitien, Tintoret consacre surtout trois tableaux. Saint Marc libérant un esclave, le transfert ou l'enlèvement du corps de Saint Marc et l'invention du corps de Saint Marc. Trois tableaux, surgis du pinceau de Tintoret à quelques années de distance, trilogie dramatique qui constitue une sorte de scène instituante de la peinture. Christine Bussy-Glucksmann.
Le premier tableau, c'est-à-dire l'enlèvement du corps de Saint-Marc, est une sorte de perspective infinie qui fuit sur les corps des Sarrasins qui sont comme des voiles blancs qui s'enlèvent à l'infini sur fond d'orage. Et là, on a une perspective blanchie et une sorte de premier plan qui est précisément le corps, une sorte de Christ extrêmement... je pensais au Christ de Michel-Ange, mais c'est un Saint-Marc extrêmement musclé, en quelque sorte, qui est tenu par un groupe. Et on voit dans le coin gauche du tableau, quand on le regarde, quelqu'un qui s'accroche à un rideau, comme si tout cela n'était qu'un théâtre, et qui est peut-être le Tintoret. Alors, là... On a vraiment une sorte de scénographie d'une fuite et d'un enlèvement. Et la suite de cette fuite et de cet enlèvement, partant d'orage, en quelque sorte, c'est au fond le deuxième tableau, l'invention du corps de Saint-Marc. Et ce tableau est tout à fait étonnant. C'est une crypte, c'est une fuite. On a donc des arcades. Par ces arcades tombent des corps morts sur les deux côtés. Et au fond, on a une sorte d'ouverture rectangulaire de la lumière avec une sorte de scène rougeoyante, une sorte d'espace rougeoyant qui vide, bien sûr, cet espace et l'aspire. Et au fond, on a évidemment, au premier plan, comme toujours, on a des plans, vous le disiez, on a toujours plusieurs plans. Et par rapport à ce fond d'enlèvement et de fuite, au premier plan, le geste de Saint-Marc désignant les corps cadavériques et au pied de Saint-Marc, bien évidemment, le corps. Alors, cette invention du corps fait que le corps fait événement. Et je dirais que c'est cet événement qui est le corps de la peinture. Et donc, on a toujours chez Tintoret, très souvent, deux lumières. Il y a ce qu'on pourrait appeler un géométral qui organise le tableau, qui peut être une sorte d'architecture d'enlèvement, comme là, dans les deux tableaux. Et puis, je dirais, un autre modèle de constitution qui est, au fond, très proche de voir le regard, c'est-à-dire la pure lumière, l'événement de la pure lumière, que ce soit le miracle, la rédemption. Si bien que dans déjà ces deux tableaux, on a le corps de lumière, on a les corps d'ombre, on a tous ces corps morts qui tombent en quelque sorte. Et au fond, l'invention, c'est bien sûr l'invention d'un corps de gloire. Et le troisième tableau, c'est Saint-Marc sauvant un sarrasin, ce qui quand même à l'époque est tout à fait important. Cette fois-ci, l'orage s'est transformé en une sorte de tempête et on a une sorte d'espace sombre, tourbillonnant, agité, si vous voulez, typiquement, alors, baroque, au sens fort, c'est-à-dire procédant par tourbillon, turbulence et inflexion.
Et de même que dans ce tableau, où le saint intervient donc en chutant, en quelque sorte, comme en plongée vers le corps du sarrasin, il est au milieu du tableau et on le voit qui traverse l'espace. On a l'impression que cette fois, il accomplit justement ce cycle du corps de lumière dont vous parliez, Christine Lucie.
Oui, parce que d'ailleurs, les trois tableaux concernant Saint-Marc renvoient à un tableau qui est quasi contemporain, tout petit peu avant, et qui est précisément le miracle de l'esclave. Et là, je dirais qu'on a les deux espaces véritablement quasiment en confrontation, puisque le corps de l'esclave délivré des chaînes est par terre, il est entouré d'un triangle de regards où il y a tous les personnages de Venise, dont le Tintoret lui-même et le sénateur Angone et bien d'autres. Et le saint tombe comme en apesanteur dans une sorte d'aérien de lumière, tel un vol icarien, je dirais aujourd'hui. Il tombe et cette tombée foudroie la scène d'une trouée lumineuse. C'est bien qu'on a cette sorte de tension entre le géométral et lumière de lumière ou lumière d'ombre qui caractérise au fond la manière dont le Tintoret organise les plans et organise cette sorte de chute vers le haut qui caractérise sa peinture.
En fait, Christine Bussy-Glucksmann, pourquoi ce cycle de peinture sur Saint-Marc a-t-il une telle importance pour la compréhension du Tintoret ? On a l'impression que c'est un cycle qui joue un rôle particulier dans sa peinture.
Mais on pourrait dire que c'est à la fois le patron de Venise et que c'est peut-être dans son geste éclairant, dans cette gestualité qui invente encore un corps, une sorte de scénario du corps de la peinture. C'est-à-dire qu'au fond,
S'il y a une esthétique du corps de la peinture, en ses plis, ses textures et ses ascensions, dans le Tintoret, je dirais que c'est peut-être cette triplicité du corps. Le corps y est enlevé. C'est un, y a une extatique du mouvement du corps. Le corps y est inventé. Le peintre, c'est celui qui réinvente la corporéité d'un corps. Et enfin, le corps y est ébloui, comme dans le miracle de l'esclave ou comme dans Saint-Marc qui, précisément, sauve un sarrasin de la mer. Alors, c'est le propre, je dirais, des esthétiques du sublime, ce qu'on appelait en Italie il mirabile, de déployer cette scénographie encore comme la scène instituante, l'allégorie de la peinture.
Et en même temps que, bien que prenant justement comme sujet une allégorie sainte et un personnage qui en principe échappe à la matière, il réintroduit la matérialité de la peinture.
La matérialité est partout. Mais on pourrait dire que la matérialité est pliée, elle est éclairée. Dans ces tableaux, elle passe du pôle spectral, des cadavres qui tombent dans la crypte, à une matérialité de lumière, les deux grandes matérialités du Tintoret et de couleur. Et effectivement, cette matérialité tend toujours à quelque chose qui la nie, c'est-à-dire il y a une âme de la matière. Et c'est ça le baroque, trouver une âme dans et de la matière.
Jacopo Robusti Tintore. Comme les louanges du public confirment en tout point celles que je vous ai faites moi-même pour le grand tableau de la Scuola di San Marco, je me réjouis autant de la perspicacité de mon jugement que de l'excellence de votre art. Mais quoique cela soit bien ainsi, ne vous enorgueillissez point, car ce serait renoncer à vous élever à un degré plus haut encore de perfection. Il ne vous nuirait pas, en effet, d'apprendre à faire avec patience ce que vous savez faire déjà avec prestesse. Mais à cela pourvoiront les années, peu à peu. Car enfin, seul l'âge arrive à freiner ce penchant à la négligence qui domine la jeunesse impétueuse et rapide. À Venise, en avril 1548, Pietro Aretino.
Romanelli, puisque nous sommes en présence de ce tableau absolument extraordinaire, donc qui représente la crucifixion, oui. Tableau immense, puisqu'il doit faire à peu près une dizaine de mètres de large sur 5-6 mètres de haut, et qui est extrêmement impressionnant, puisqu'on voit le Christ qui surplombe l'ensemble de la scène. Généralement, le Christ est représenté un peu dans le fond, au sommet de la colline du Golgotha. Et là, en fait, il est quasiment en premier plan. La tête touchant quasiment le haut du tableau, et avec les bras donc en croix, ce qui donne, qui est tout à fait spectaculaire comme représentation. Et après, l'ensemble de la scène se déploie d'une manière très dramatique, très, très intense. La crucifixion n'est jamais représentée d'une manière calme, mais celle-ci est particulièrement agitée, je dois dire.
Oui, c'est vrai. Et on pourrait dire aussi qu'il s'agit d'une sorte de manifeste du maniérisme à Venise. À Venise, on ne peut pas parler du maniérisme en termes de la manière de la peinture de Rome ou de Florence.
Vous êtes bien loin de Michel-Ange, quand même.
Oui, mais il faut dire qu'ici, surtout grâce à une documentation graphique que les élèves de Michel-Ange avaient amené à Venise, On trouve aussi des influences qui sont très importantes, surtout cette dimension efforcée du sentiment, cette forme très gigantesque, très musculeuse de corps, et une grande intensité d'émotions.
Oui, c'est ça surtout peut-être qui frappe le plus, c'est que effectivement on voit le désordre apparent de le groupe de personnages et des femmes formées par Marie, puis la mère de Christ elle-même, qui donc sont complètement, en fait, forment tout un groupe allongé au pied de la croix, les corps l'étant les uns sur les autres, ce qui est très saisissant en fait, parce que c'est une attitude de grande douleur aussi. Qui apparaît.
Mais il faut aussi noter qu'il y a une invention qui est typiquement de Tintoret, c'est-à-dire la représentation comme un grand théâtre. Vous voyez en effet les spectateurs qui sont le personnage des évangiles. Et ici, il faut dire qu'il y a une sorte de sommaire de tous les évangiles. Il y a des scènes qui dérivent des Marc, de Luc, de Jean, etc. Mais il y a aussi des personnages qui sont à l'extérieur de la narration des évangiles. Il y a des personnages qui étaient les chefs de la squadra di San Rocco. Il y a aussi des spectateurs qui étaient dans la scène. Il y a différents, très 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 différents niveaux de participation à la représentation de la crucifixion. Ce sont des spectateurs qui sont contemporains à Tintoret, qui sont contemporains à Jésus-Christ, qui sont contemporains aux évangélistes. Il y a vraiment ce très 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 différent contenu, renvoi entre les différentes situations et moments, qui donne cette spectacularité et aussi cette dimension des mouvements continus, des grands cycles, des réalités. On peut voir vraiment la sorte de l'univers qui tourne en tourbillon autour de la figure de Christ pendu.
Oui, qui est centrale. Et effectivement, l'ensemble des spectateurs et les deux larrons que l'on voit aussi, le mauvais larron tournant le dos à la croix, la croix elle-même étant disposée comme s'il lui tournait le dos, alors que le bon larron est sur la croix et commence à, enfin, tourne sa tête vers le Christ et on est en train de la hisser. Il y a tout ce, il y a effectivement ce mouvement un peu giratoire de l'ensemble de la scène.
Il y a aussi une redécouverte de la réalité que Tintoret démontre aussi dans Au rez-de-chaussée, dans les autres aussi, le cycle de Marie, qui c'est une redécouverte de la nature et une redécouverte de la nature morte, comme on dit. Et voilà les objets de la crucifixion qui sont là abandonnés et qu'il reprend en termes de grande fidélité descriptive, et aussi les paysages, la découverte, je disais, de la nature, les arbres, l'eau, tout ça qui forme un paysage humain.
L'eau qui apparaît au fond, là, dans ce ciel d'orage, parce que c'est le ciel
un orage,
très noir.
Et c'est une redécouverte de la participation universelle, aussi de la nature, du paysage, etc., à la passion dans ce cas.
Par ses excès comme par son génie, il déborde hors de son siècle et va rejoindre le nôtre. La vie générale des choses le préoccupe plus que la vie particulière d'un corps. Il sort des règles pittoresques et plastiques. Ce qu'il a besoin de rendre, ce n'est pas tel homme debout ou couché, c'est un moment de la nature ou de l'histoire. On se demande où il est allé chercher cela, dans quel monde inconnu, fantastique et pourtant réel. Taine, voyage en Italie.
Il faudrait dire un mot de cette grande salle qui est comme une grande salle capitulaire, en fait, de la Scola. Alors là, c'est à la fois l'ensemble du plafond qui offre plusieurs représentations de différentes scènes bibliques, celle-là, et l'ensemble des tableaux qui sont disposés tout autour, sur les murs. Je ne sais pas, il y en a... Au bas mot, on a l'impression qu'il y a au moins une vingtaine de grands tableaux.
Oui, oui.
Ici, qui sont tous du Tintoret, donc.
Quelqu'un a dit qu'il s'agit d'une sorte de Cappella Sistine à Venise. En effet, l'effort artistique, aussi l'effort de pensée qu'il y a pour concevoir et réaliser cette sorte de grande exposition de représentation de l'histoire du salut dans les siècles, dans les siècles à partir de la création avec Adamo et Eva et le péché
originel,
et après le prophète
Moïse qui fait jaillir l'eau de la montagne.
Et il faut dire que les systèmes tourne autour du tableau central, qui est
le serpent d'airain.
Le serpent d'airain, oui. Et c'est un choix très, très singulier.
Épisode la traversée du désert.
Oui, oui. Et il faut dire qu'il y a une raison pour ce choix. Le serpent dans le désert, c'est le péché, mais c'est aussi la peste dont Saint-Roch était
le
protecteur contre les effets de la peste.
Et la aussi, peste qui a ravagé effectivement Venise à plusieurs reprises.
Oui, et il y a une de grandes pestes de Venise dans les années où Tintoret faisait cette décoration. C'est la peste qui a fait mourir un titien, la peste pour laquelle Palladio a réalisé à Venise l'église du Redentore. C'était une grande peste de Venise. Et ce différent niveau d'interprétation de l'histoire du salut et de l'effet de la médiation de Saint-Roch et aussi le rôle de Moïse dans cette médiation, énorme médiation entre Dieu et l'homme, entre Dieu et l'homme. Et le plafond entier, c'est une exposition d'une dimension d'un poème énorme, énorme, la exposition de différents moments de la caduta et de la salvezza de l'homme.
La chute et le salut en même temps.
De l'homme, oui. Et après, il y a des connexions avec les tableaux, avec l'histoire de Christ. C'est des cycles christologiques. Et on peut trouver des correspondances exactes entre l'eau de Moïse
qui jaillit.
Oui. Et avec
le baptême
de Christ. Etc. On peut trouver toujours des connexions très étroites entre l'Ancienne et le Nouveau Testament.
Ah oui, c'est effectivement une lecture comme ça conjuguée.
C'est une des plus complètes.
Et c'est une puisque par rapport à l'eau, justement, on voit effectivement le baptême d'un côté, donc l'eau qui jaillit du rocher au plafond, et à nouveau ici la piscine probatique. Donc,
la piscine probatique, mais aussi...
Où le Christ guérit les malades grâce à l'eau.
Oui, avec la connexion avec les serpents, etc.
De même que là-bas, au fond, il y a à nouveau tout un cycle joint autour de la nourriture, puisqu'il y a à la fois la manne qui tombe dans le désert, le cycle de la multiplication des pains.
Et qui a sa correspondance avec l'institution de l'Eucharistie. La manne dans le désert, c'est l'anticipation de l'Eucharistie que Jésus-Christ, le Jeudi Saint, va instituer avec les apôtres.
Et c'est une lecture vraiment conjuguée de la Bible, des deux grands cycles de l'Ancien et du Nouveau Testament.
Et encore une fois, et on peut dire que c'est impossible qu'un peintre, qui n'était pas un peintre particulièrement intellectuel, pouvait concevoir une connexion si articulée, si exacte, si originelle. Il faut tourner encore une fois sur les problèmes du théologien. C'est quelqu'un qui donnait des suggestions à Tintoret, qui lui donnait aussi des choix
précis
et très définis, très documentés. Et je pense qu'il faut avoir attention pour les milieux, surtout des Capucins à Venise, qui était un milieu très intellectuel,
très
qui
érudit,
était,
oui.
Oui, très érudit, et qui apportait des nouveautés très intéressantes dans la prédication, et qui utilisait avec une grande familiarité la Bible, surtout la Bible, l'Ancien Testament, dans sa prédication. Et là, il faut trouver des inspirateurs, je pense, des Tintoret.
Parce que ce qui est fabuleux, finalement, dans cette énorme salle de premier étage de la Scuola Grande di San Rocco, nous avons, si on y réfléchit bien, d'un côté l'eau, tout ce qui concerne l'eau, et de l'autre côté la nourriture.
Oui.
À le feu au milieu, le serpent des reins. Donc il y a vraiment l'exaltation des éléments de la nature.
Oui, oui, c'est vrai.
Mais dans leur symbologie religieuse, bien entendu.
Et toujours, il y a aussi cette lecture comme par rapport au présent, le problème de la peste et la défense contre les morts, la peste.
Et ça, c'est vraiment toujours cet enracinement du Tintoret dans l'histoire de Venise, parce qu'en fait, c'est vraiment le citoyen de Venise, Tintoret, peut-être beaucoup plus que Titien,
oui.
Son contemporain ou Véronèse.
Titien, il faut dire qu'il était l'artiste de la grande cour européenne, oui. Tintoret, c'est un homme qui est très... impastato, il
oui,
est très
enraciné
très,
dans,
oui,
dans l'histoire
très,
de
très, très enraciné. Il est vénitien, au contraire des Titiens et des Véronèses, il est vénitien, il est né à Venise, il vivait à Venise, il n'est jamais sorti de Venise.
En quoi pourrait-on dire que le Tintoretto est vraiment un peintre vénitien?
Oui, on peut dire ça sans doute. Et pour deux aspects. Il est sans doute vénitien comme peintre, car sa peinture, le langage de sa peinture est vénitien en fait. De l'autre côté, comme homme, et sa volonté, n'est-ce pas, de s'assurer des commissions avec des trucs, quelquefois, incroyables, et sa tendance à travailler toujours.
C'est un aspect... Accumuler les marchés, presque.
Voilà.
Les commandes.
Voilà. Et alors, il s'agit du... marchand de l'esprit enfin mercantile des Vénitiens.
Il faut que la peinture soit rentable.
Oui, voilà.
Qu'elle soit, sinon ça n'est pas un métier.
Oui, oui.
Et lui veut vraiment en faire un métier.
Oui.
Mais en quoi vous dites que sa peinture est vénitienne? En quoi est-elle vénitienne justement?
Disons qu'il s'agit d'une peinture qui est tout à fait peinture. Et où la construction préliminaire du dessin n'existe pas. Où est tout à fait sommaire. Il s'agit de très petites indications graphiques. Et la construction enfin, des images est une construction faite avec les couleurs. Avec... le jeu de couleurs, l'impasto. Et à ce propos, Tintoret, formidable. Il l'avait étudié. On pense qu'il a été une fois à Rome. Et il était toujours à Venise. Mais peut-être une fois, il est allé à Rome. Il était là pour... pas pour des travaux, mais pour étudier. Enfin, à Rome, c'était Michel-Ange, n'est-ce pas?
Michel-Ange?
Oui. Et il a vu, sans doute, œuvre de Michel-Ange, et peinture et sculpture. Et il a connu alors les dessins de Michel-Ange. Et il a reçu une impression très forte, sans doute. Et on peut la reconnaître, cette impression de ses peintures après les voyages à Rome. Mais il a reçu une leçon de l'expérience de Michel-Ange, c'était surtout sur le caractère dramatique des compositions et pas dans les domaines du dessin. Et la peinture vénitienne est une tantorée à ce propos, est vénitienne radicalement, c'est une peinture des couleurs, des lumières, des rapports entre lumière, ombre, etc. Le dessin n'existe pas. Tantôt, dessiné, évidemment. Mais c'était pour fixer la composition complexive, pour étudier la position des figures entre eux et le sfondo. Après, la peinture était seulement peinture.
Oui, ce sont d'ailleurs les deux grands courants de la peinture italienne, que l'école florentine et l'école vénitienne, qui sont quasiment contemporaines en même temps, puisque c'est, enfin, Florence, c'est surtout le 15e siècle et début du 16e, mais ce que vous décrivez, Lionello Pupi, c'est surtout au 16e siècle à Venise.
Oui.
Mais bon, Venise, c'est aussi la ville de la lumière.
Et oui, c'est ça.
C'est devenu la ville de la couleur.
Oui.
La peinture de la couleur.
Oui.
Ludovico De Luigi, puisque vous êtes vous-même peintre, donc comment définiriez-vous en quelques mots, en quelques touches, donc ce langage du Tintoret?
C'est le langage du Tintoret?
Vous avez dit déjà la lumière avant la lumière.
C'est le langage du courage. Moi, je l'appelais Monsieur Courage.
Pourquoi?
Parce qu'à l'époque, tout le monde peignait d'une façon différente. Et lui, il a eu ce grand courage de prendre le pinceau, tu vois, et de n'écouter personne, de tuer ses propres maîtres, parce que pour arriver, il faut toujours aimer passionnément et tuer métaphoriquement son propre maître, autrement tu n'arriveras jamais.
Parce qui a-t-il tué alors?
Ben, il a tué tous, Raphaël, Michel-Ange, Bellini, Carpaccio, Titien, son compagnon, tous.
Et Véronèse?
Véronèse, naturellement, aussi. Mais Véronèse, déjà, c'était un criminel vrai. Parce qu'on n'aurait pas Saint-Sébastien s'il n'avait pas tué... Il était un ivrogne. Il était complètement ivre. Il a tué quelqu'un ici, Campo San Barnaba, puis s'est réfugié dans l'église. Les autres disent, bon, d'accord, nous, on te protège, mais tu vois, cette église, elle n'a pas peinture. Voilà, et maintenant, elle est pleine.
Bon, donc il a Tintoret assassine ses maîtres métaphoriquement et picturalement.
Et picturalement assassiné ses propres maîtres, tu vois. Et avec grand courage et dans les risques. Autre chose qu'aujourd'hui, on ne prend plus de risques. Ce sont des risques calculés, que ce n'est pas des risques. Non, lui, il a pris les risques. Et il a pris pourquoi? Parce qu'il y avait un risque physique et un risque métaphysique. Le risque physique, c'était qu'il pourrait mourir de peste à tout l'instant. Et métaphysique, qu'il pourrait aussi finir comme un copieur des autres.
Et à vous, il a appris quoi alors, ça, cette leçon du courage?
Moi, il m'a appris que je dois avoir la foi, Et la foi, selon notre cher pape, c'est de croire les choses impossibles. Parce que pour croire aux choses possibles, tout le monde est capable. Donc j'ai eu le courage de suivre son enseignement, je l'ai pris comme un maître à penser, et c'est pour cela que je me trouve à l'âge de 63 ans, que je vis encore dramatiquement mon existence, mais à la manière du Tintoret.
Et il y a un tableau de lui que vous aimez particulièrement, oui, puisqu'il y a le tableau de la crucifixion, peut-être que
celui avez... de la crucifixion, je l'aimais particulièrement, parce que lui, il a exécuté ce tableau dans un an.
En un an.
Et sans dessin, sans rien. Et c'était déjà un miracle à l'époque. Et en plus, il avait mis beaucoup de personnages que les autres n'étaient pas d'accord. Parce qu'ils étaient des personnages comme des menuisiers, tu vois.
Oui, il a introduit des outils,
des
personnages
des artisans. Il y avait tous les artisans, les aristocrates prêtres, parce qu'ils étaient tous des aristocrates, comme je t'ai dit, dans un couvent qui n'était pas de couvent, mais des bordels, ils ne voulaient pas.
Oui, lui a introduit le monde de Venise.
Il a introduit son monde.
Dans la scène, le personnage central est une large servante agenouillée, la tête dans l'ombre, l'épaule dans la lumière. Elle tient une assiette de fèves et apporte des plats. Un chat essaie de grimper contre sa corbeille. Alentour sont des buffets, des domestiques, des aiguillères. Et les disciples, en file perpendiculaire, bordent une longue table. C'est un souper, un vrai souper, le soir. Voilà pour lui l'idée essentielle. Au-dessus de la table, une lampe rayonne et une clarté de lune bleuâtre tombe sur les têtes. Mais le surnaturel entre de toutes parts. Au fond, par une échappée de ciel et un cœur d'ange rayonnant. À droite, par un essaim d'anges pâles qui tourbillonnent dans l'ombre nocturne. Avec une témérité et une force de vraisemblance extraordinaire, les deux mondes, le divin et l'humain, pénètrent l'un dans l'autre et n'en font qu'un. Thème, voyage en Italie.
Il a toujours choisi la ligne théologique et la ligne des évangiles de Saint Jean. C'est un choix qu'il a fait avec ce conseiller, oui. C'est une ligne qui est une ligne qui est très singulière à Venise. C'est une ligne.
Pourquoi ? Parce qu'à Venise, on s'inspire plutôt
oui,
de Saint-Marc.
Oui, de Saint-Marc, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est une ligne qui n'est pas réformée, qui n'est pas une ligne de la contre-réforme, mais c'est une ligne qui n'est pas aussi exotérique. C'était une choix très, très médité et très singulier.
C'est-à-dire qu'il appartient à un courant plutôt justement lié à la contre-réforme, puisque...
Oui, il s'est balancé entre la réforme et la contre-réforme, avec une originalité qui, à Venise, avait bien, bien des fortunes, bien, bien, bien des succès.
C'est-à-dire
oui.
Ce courant de la réforme,
de la réforme catholique, qui a anticipé, pour certaines fois, la réforme...
Protestante,
mais aussi qui n'a pas choisi complètement la contre-réforme catholique.
Mais c'est-à-dire, on le verrait à quoi en particulier ? Une forme d'austérité dans sa peinture ?
Oui,
l'exigence
d'un retour à la pauvreté, à une religion qui n'est pas seulement formelle, très intériorisée, des pensées et des adhésions du cœur à la foi.
Mais c'est tout un courant qui est né à Florence, déjà sous l'impulsion de Savonarole, en fait.
Oui, c'est très différent, mais il faut dire aussi qu'il y avait des influences. Et il y avait surtout à Venise un réformateur qui s'appelait Gasparo Contarini, et qui a fondé un mouvement, on pourrait dire, des réformes catholiques, qui est très, très, très intéressant, qui a été étudié à partir d'il y a 20 ans, qui a donné des grandes découvertes de pensée.
Et Tintoret, donc, se sentirait proche.
Tintoret, je pense qu'il était proche. Oui, je n'accepte pas l'idée que quelqu'un a avancé que des Tintoret réformés, protestants. C'est impossible, surtout dans un lieu d'une grande officialité, comme était la Scuola di San Rocco. Mais il était, je pense, proche à Gasparo Contorini et son mouvement de réformateur catholique. Tintoret, c'est le peintre de la lumière, du contraste entre la lumière...
Oui, des lumières violentes.
Ce ne sont
pas des lumières douces.
Oui. Non,
vénitiennes, d'ailleurs, au sens...
Non, toujours violentes. Et il y a une contraposition très forte entre les zones du tableau qui sont illuminées, les zones qui restent dans l'ombre. Et ici aussi, je pourrais encore une fois renvoyé à Saint Jean. Saint Jean, c'est l'évangéliste qui parle toujours de la lumière. De la lumière. C'est une théologie qu'on appelle la théologie de la lumière. Et je pense que cela pouvait inspirer directement ou indirectement la sensibilité de Tintoret. C'est le problème de la lumière. La lumière, c'était la présence de Dieu. Dans l'histoire. Et il a une extraordinaire façon de donner ce sens de la lumière qui donne concrètement le sens de la présence de Dieu. Et l'interprétation que Saint Jean donne de l'Ancien Testament, c'est toujours une interprétation de la présence de Dieu comme lumière. Voilà, je voudrais dire vraiment que Tintoret, c'est l'homme qui interprète en termes très original et très fidèle les problèmes de la théologie de la lumière, c'est la théologie de Saint-Jean.
Jérôme d'Astier.
À San Rocco, il y a une résurrection, et le Christ qui sort du tombeau, comme ça, et il y a une espèce de flambée d'un jaune extraordinaire, comme ça, qui enveloppe tout, qui enveloppe le Christ, et qui se diffuse partout, et je trouve ça extraordinaire, quoi. Et puis, il y a d'autres choses que la couleur, il y a aussi le fait que, ce qui me touche beaucoup, à part la mise en scène, les angles, la couleur, c'est la façon finalement dont il associe tellement bien dans le mouvement évidemment et dans la lumière les arrière-plans au premier plan, enfin tous les plans. Il y a évidemment une circulation comme ça à l'intérieur de la toile du premier plan vers l'arrière-plan, de la droite vers la gauche, du haut vers le bas. Enfin tout ça tourne de façon extraordinaire, qu'on est pris dans une espèce de spirales vertigineuses, d'ascension, ou de descente, comme par exemple le miracle de l'esclave, quoi, avec le corps de l'apparition de Saint-Marc, comme ça, qui est suspendu au-dessus des témoins et de l'esclave. Et il y a également la rapidité de Tintoret qui m'émeut énormément. Bon, je crois qu'on l'a un peu parfois critiqué justement sur cette hâte, cette précipitation qui était peut-être dont il s'est servi aussi pour saisir des commandes, pour devancer les autres, etc., pour des raisons donc matérielles, mais qui est extraordinaire dans l'exécution des personnages, notamment des arrière-plans, où les personnages se dématérialisent à moitié. Enfin, c'est ça qui me touche beaucoup, c'est de voir comme les corps sont, on a l'impression, sont vraiment dans une presque évanescence, enfin dans cet aspect éphémère de la sensibilité baroque aussi, hein, de tout ce qui est finalement le sentiment très, très fort de la vie rongée par la mort, de la vie qui est en voie de disparition. Et voilà, tout est en voie de disparition pour moi chez Tintoret. Et ça, ça me touche énormément. Et on voit, par exemple, dans le vol du corps de Saint-Marc, il y a ces espèces de silhouettes très étranges, spectrales, qui s'enfuient dans l'ouragan et qui se réfugient dans les coulisses, là, sous les arcades qui bordent la place où on enlève le corps. Et dans d'autres tableaux aussi, il y a, quand on voit un peu dans les grossissements des arrière-plans, des détails, des personnages qui sont à peine peints, quoi, qui dessinent avec le pinceau, quoi. Ça, je suis très sensible à ce côté dessiné au pinceau.
Aucun peintre n'a aimé, senti et rendu ainsi le mouvement. Tous ces personnages se renversent et s'élancent. Il y a de lui une résurrection où pas un n'est en équilibre. Des anges arrivent de haut, la tête la première. Le Christ et les saints nagent dans l'air. L'atmosphère est pour lui un fluide résistant et palpable qui soutient les corps et leur permet toutes les attitudes, comme l'eau aux poissons. Quand il en vient à peindre une scène violente comme le serpent d'airain ou le massacre des innocents, c'est un délire. Les femmes saisissent à pleine main les épées des bourreaux, roulent précipitées du haut d'une terrasse, collent leurs petits contre leur poitrine avec une étreinte amicale, s'abattent sur eux en les couvrant de leur corps. 5 ou 6 entassés, corps sur corps, femmes et enfants, blessés, mourants, vivants, font un monceau. L'espace est couvert d'un fouillis de têtes, de membres, de torses tombants, courants, heurtés, chancelants comme dans une débandade de gens ivres. C'est la bacchanale forcenée du désespoir. L'artiste est dans son domaine, il vagabonde grandiosement dans l'impossible. Il voit trop à la fois, 40, 60, 80 personnages et leurs alentours, soulevés, entremêlés, pressés sous une tragédie de lumière et de noirceur. Ten, voyage en Italie.
Gian Domenico Romanelli, alors donc nous voici dans la partie inférieure de la Scuola Grande, au rez-de-chaussée de cette Scuola Grande di San Rocco peinte par Tintoret, tout ce cycle de tableaux que l'on voit. Et ici, la partie du bas donc est un autre type de peinture, enfin une autre histoire qu'il va développer aussi en plusieurs tableaux et qui semble davantage concentrée sur l'histoire de Marie. Alors.
Oui. De Marie et de l'enfance de Christ. Et aussi pour ces tableaux, il faut penser que l'été, les textes inspirateurs pour cela. Et on trouve les évangiles de l'enfance de Jésus, soit les évangiles canoniques, soit les évangiles extra-canoniques, qui avaient beaucoup d'histoires, qui avaient beaucoup de narrations, qui avaient beaucoup d'épisodes dont les peintres pouvaient se inspirer.
Mais justement, cet ensemble de tableaux donc, où se déroule l'histoire de Marie et de l'enfance du Christ bon, est ouvert, bien entendu, par celui qui représente l'Annonciation. Oui. Et c'est le premier tableau que l'on voit en rentrant dans la Scuola Grande di San Rocco. Et c'est absolument saisissant, parce que je ne connais pas une Annonciation qui soit aussi violente que celle du Tintoret. En particulier parce que elle est séparée avec un grand sens de la dramaturgie, enfin qui est vraiment une constante dans l'histoire de la peinture du Tintoret, par un mur qui barre le milieu de la scène, et l'ange traverse quasiment à l'horizontale ce mur, avait environné par une nuée d'angelots, et fonce littéralement sur Marie, laquelle je recule effrayée
oui.
Devant cette invasion et cette irruption soudaine de l'ange. Et c'est Sartre, dans son texte célèbre sur Tintoret,
oui.
Sur le séquestré de Venise,
oui.
Comme il l'appelle, dit à un moment Tintoret la foudre. Et je crois que Tintoret la foudre, c'est vraiment l'ange de l'Annonciation ici, dans ce,
oui.
dans ce tableau. Gian Domenico oui. Romanelli, c'est un tableau saisissant.
Oui, on voit le San Giuseppe, là, qui travaille, qui est
au
pratiquement. Qui est à l'extérieur de ce qui se déroule là.
Oui, la scène se passe entre l'ange et Marie, selon toute évidence.
Et c'est vrai, l'observation de Sartre, c'est une observation qui est très poétique, qui a une interprétation poétique d'un poème.
Et en même temps, on a l'impression qu'il y a effectivement deux plans dans ce tableau, mais qui. Où il y a d'un côté, donc avant le mur, il y a un peu comme le monde ancien, en fait, qui est encore en désordre, puisqu'on voit des objets, des morceaux de bois, bon, Joseph est charpentier, qui sont plus ou moins pêle-mêle.
Il y a le désordre, et là, il y a l'ordre.
Et là où est Marie et où pénètre l'ange, il y a effectivement un monde ordonné. Oui. Avec un...
Mais il faut dire aussi que dans la peinture vénitienne, il y a plusieurs fois cette division entre le monde ancien, c'est-à-dire la synagogue, et le monde moderne qui commence avec l'Annonciation. Là, il y a une division très, très, très précise. Ce mur nous permet d'entrer dans le Nouveau Testament, dans l'histoire de la foi, l'histoire de Christ, qui va recommencer.
Dramaturgie extraordinaire dans cette toile comme dans toutes les toiles de Tintoret et même dans les toiles apparemment statiques de Tintoret. Par exemple, je pense aux portraits qui sont parfois considérés comme moins intéressants parce qu'évidemment, il n'y a pas toute cette mise en scène dans les portraits, mais les portraits des vieux doges, des vieux magistrats vénitiens, il y a des choses qui sont très touchantes aussi dans ces visages qu'on sent justement ronger de l'intérieur. Il y a une technique pour faire sentir le décharnement, le regard brûlant de ces personnages, dont les visages apparaissent en général dans la partie supérieure du tableau, isolés comme ça dans une pénombre, dans une obscurité. C'est très émouvant aussi, ces portraits. Mais l'Annonciation, pour revenir à l'Annonciation, il y a aussi ce qui est très frappant chez Tintoret, ce traitement de l'espace. Quoi. Ça, c'est encore une chose qui m'attache beaucoup. C'est cette façon de traiter l'espace avec ses sautes, ses ruptures, quoi, ces ruptures... entre, dans l'Annonciation, par exemple, entre la partie de l'intérieur où se trouve la Vierge et puis la partie gauche de la toile qui est au contraire où l'espace s'ouvre comme ça brusquement. Alors il y a des échappées de vue et puis à d'autres endroits, au contraire, on se heurte à des murs ou à d'autres obstacles, comme dans la montée au calvaire, par exemple, aussi, il y a ces diagonales, évidemment, qui arrivent vers le sommet, et puis le flanc de la montagne qui arrête la vue, et tout d'un coup, on saute au-delà, dans le lointain, et toutes ces ruptures dans l'espace, c'est accusé aussi dans l'Annonciation par la partie... de la cloison comme ça qui vient séparer l'intérieur de l'extérieur et que qui est franchi, qui est traversé par cette ligne extraordinaire, cette espèce de coup de fouet comme ça, des anges qui se déploient de la gauche vers la droite comme ça, au-dessus de l'ange annonciateur.
Tintoret le Dionysiaque se ferait un chemin dans les admirations. A l'évidence, Philippe Solers lui préfère son rival de Titien. Sauf, peut-être, pour la gigantesque épopée picturale qui orne la grande salle du Palais des Doges, cet immense paradis par lequel Venise célèbre son apothéose. Philippe Solers.
Là où tout s'éclaire d'une façon fabuleuse, alors c'est cette histoire de paradis. Qu'il est le seul à avoir osé entreprendre, après les esquisses merveilleuses, mais à l'envers le vide de Botticelli, donc il a rempli cette affaire. Pour cela, il fallait alors une conviction religieuse très profonde. On comprend, ou du moins Tintoret fait comprendre, ce qui n'est pas évident du tout chez d'autres peintres qui ne se mesurent pas à cette affaire. D'une part que, en effet, ça vole de partout vers le paradis. Le paradis, en général, on n'ose pas trop le remplir. Hein. Donc là, vous avez Dante qui parle par derrière et qui attire votre attention sur le fait que le paradis est très peuplé, finalement, il y a beaucoup de monde, et pas n'importe comment disposé. Sauf que personne ne lit jamais le paradis de Dante. Je ne connais pas trois personnes qui l'aient vraiment lu. Et donc, il y a forcément dans le paradis, qui est le contraire de l'entassement pesant de l'enfer et de la circularité à pied, si on peut dire, du purgatoire, il y a forcément cette force d'ascension. Mais rien d'éthéré chez Tintoret, c'est-à-dire il y a une puissance des corps eux-mêmes, en tant qu'ils sont très terrestres, hein, qui rentrent comme ça d'emblée dans ce cirque, c'est le cas de le dire. Et alors là, il y a en haut quelque chose qui fait comprendre mieux que la Trinité, ben, ça se joue à quatre. Pourquoi ? Parce qu'il y a le couronnement de la Vierge. Et que, par conséquent, les trois personnes ont bien besoin d'une quatrième pour ne pas arrêter de rentrer les unes dans les autres. Vous voyez, comme tout ça est compliqué, on peut y rester très longtemps. Et là, je crois qu'il a touché quelque chose d'extraordinaire, vraiment. Je crois que ce qui passe dans le paradis de Tintoret, c'est en effet quelque chose comme une convulsion de ce qui vient de se montrer. Et où ça ? Ben à Venise, parce que où est-ce que la peinture s'est développée comme couleur intrinsèque et donc irradiation de la chair par elle-même, c'est là. Et que, en effet, il referme. Il y a un geste pour refermer. Mais dans ce geste même, il y a une force considérable. Donc c'est pas rien. On peut apprécier que la force des pensées pour contrecarrer un phénomène est aussi importante que le phénomène lui-même, n'est-ce pas ? En tout cas, c'est démonstratif.
La peinture du Tintoret, c'est d'abord la liaison passionnelle d'un homme et d'une ville, où la ville paraît encore plus folle que l'homme. Elle a su honorer tous ses peintres. Pourquoi témoigner à celui-là, le plus grand de tous, cette méfiance rechignée, cette morosité ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle en aime un autre. La Sérénissime a faim de prestige. Ses vaisseaux ont fait longtemps sa gloire. Lasse, un peu déchue, elle s'enorgueillit d'un artiste. Le Titien vaut une flotte à lui tout seul. Le peintre des rois ne peut être que le roi des peintres. La reine des mers le tient pour son fils, et retrouve grâce à lui un peu de majesté. C'est un bien national. Au surplus, cet homme a la longévité des arbres. Il dure un siècle et se transforme doucement en corps constitué. Quand cet éclat s'éteint, le Tintoret est bien assez vieux pour faire un mort. Il s'obstine à survivre au tyran, mais n'y gagnera rien. Allez voir les deux tombes. Vous saurez ce qu'il peut lui en coûter aujourd'hui encore d'avoir préparé sa patrie à tout. On a enseveli le cadavre radioactif du vieux sous une montagne de Saint-Doux à Santa Maria dei Frari, véritable cimetière de doges. Le corps du Tintoret repose sous une dalle dans la confuse ténèbre d'une église de quartier. Pour ma part, je trouve cela fort bon. Au Titien le Saint-Doux, le sucre et le nougat, c'est son châtiment poétique. À Jacopo, les honneurs de la pierre nue, son nom suffit. Mais puisque cette opinion m'est strictement personnelle, je comprendrais qu'un voyageur agacé demande à des comptes à Venise. Est-ce donc là, ville ingrate, tout ce que tu as pu faire pour le meilleur de tes fils? La réponse de Venise, je la connais. On la trouve dès 1549 dans la correspondance de l'Aretin. Si Tintoret veut qu'on l'honore, que ne peint-il comme Titien? Jean-Paul Sartre, Le séquestré de Venise.
Une vie, une œuvre, Tintoret la foudre ou la peinture ébranlée. Avec Ludovico De Luigi, artiste peintre, Lionello Puppi, historien d'art, Gian Domenico Romanelli, directeur des musées de Venise, auteur de la Scuola Grande di San Rocco, ainsi que Jérôme Dastier et Philippe Solers, écrivain, et Christine Bussy-Glucksmann, philosophe. Texte lu par Evelyne Guimara et Marie-France Ganzer. Prise de son à Venise, Jean-Claude Aimé. Mixage, Jean-Louis Boissonnade, Sébastien Huel et Claude Courteau. Une émission de Pascal Lismonde, réalisée par Josette Collin.